Il est 18h, vous l'avez dit, sur France Inter. On se retrouve dans un instant pour une édition spéciale 18-20 Europe, ici aux Pays-Bas et aussi dans d'autres pays. Frédéric Mettezeau d'abord. Bonsoir Frédéric.
Bonsoir à tous. Pas facile de quitter la maison Europe. Theresa May demande à retarder le Brexit prévu la semaine prochaine. La première ministre britannique va plaider sa cause au sommet européen à Bruxelles. Emmanuel Macron et les autres posent des conditions très strictes. Nous serons sur place dès le début du journal. L'Europe, on en parle pendant 2 heures sur France Inter. Avec vous, Fabienne. À 2 mois des européennes, vous êtes en direct des Pays-Bas avec nos reporters et vos invités.
Absolument, à Maastricht, donc aux Pays-Bas, pour la suite des pérégrinations du 18-20 à travers l'Europe avant les élections. Pourquoi Maastricht, vous me direz? Ben, parce que c'est la ville du traité, c'est la ville symbole, aussi parce que les Pays-Bas, c'est le pays du plein emploi, le pays dans les clous de ces fameux critères. On vous racontera comment ça marche. Et puis figurez-vous qu'on a voté hier ici, on y viendra très vite parce que les résultats sont extrêmement intéressants. Nous irons aussi voir si l'herbe est plus verte ou pas chez les voisins, mais vert c'est le mot, puisqu'on y irons en Allemagne, nous irons en Suède, nous irons aussi chez les Estoniens, une Europe du Nord fort différente de la nôtre qu'on découvrira ensemble. A tout à l'heure Frédéric.
A tout à l'heure Fabienne, dans un quart d'heure en direct de Maastricht. Un Premier ministre qui boycotte le Sénat, un président de l'Assemblée qui snobe son homologue. C'est la crise entre la majorité et le Sénat. Le Sénat qui saisit la justice dans l'affaire Benalla. Il soupçonne plusieurs collaborateurs d'Emmanuel Macron de faux témoignages. Passe d'armes sur les réseaux sociaux et dans les médias. Dans ce journal, nous nous rendrons à Alger, à la rencontre du plus célèbre caricaturiste de presse. Nouveau vendredi de manifestation demain. Direction aussi le Mozambique, ravagé par un cyclone puis par des inondations. Paysage de désolation sur place. La météo en France, il fera beau et doux demain. Prévision signée Jean-Pierre Hameau. Et si le peuple britannique se réveillait fatigué des atermoiements de ses élus à propos du Brexit prévu dans 8 jours? En quelques heures, plus d'un million de Britanniques ont signé une pétition demandant à rester dans l'Union européenne. Le site internet du Parlement a planté tant les signataires sont nombreux. Et comme la barre légale des 100 000 signatures a été franchie, cette pétition fera l'objet d'un débat parlementaire. Par deux fois, le Parlement britannique a rejeté l'accord entre Theresa May et Bruxelles. Il rejette aussi un second référendum sur la sortie de l'Europe. Alors, désormais, la Première ministre demande un report du Brexit au 30 juin. Bonsoir Bertrand Galichet.
Bonsoir Frédéric.
Ce sont aux 27 autres États membres de l'Union européenne réunis à Bruxelles de décider. Les discussions sur un éventuel report du Brexit sont en cours, Bertrand.
Oui, et Emmanuel Macron le dit sans détour, en cas de nouveau vote négatif sur le Brexit, la Grande-Bretagne sortira de l'Union européenne sans accord. Le président français explique sa détermination et renvoie les élus britanniques à leurs responsabilités.
Nous ne pouvons pas avoir une situation où, de manière durable, sans visibilité, sans projet, sans majorité politique, nous serions amenés à prolonger la situation actuelle. Et donc il faudrait un changement politique profond pour qu'il y ait autre chose qu'une prolongation technique.
Ce nouveau délai n'aurait rien d'automatique, a déjà prévenu la France, rejointe par une majorité de pays européens et appuyée par le président du Conseil, Donald Tusk, à l'exception d'Angela Merkel qui se montre moins définitive. Elle invoque cet après-midi un tournant d'une portée historique et souhaite avancer avec prudence. Les conditions posées par l'Union européenne, le vote par les communes du texte déjà négocié avec Theresa May, s'accompagnerait d'un délai plus court que celui réclamé par la dirigeante britannique, c'est-à-dire pas au-delà du 23 mai, début des élections en Europe. Cette accentuation de la pression sur les députés britanniques fait objectivement les affaires de Theresa May, même si le spectre du no deal reste au cœur de ce Conseil européen à 8 jours de la date officielle du Brexit.
Bertrand Galichet en direct du sommet européen à Bruxelles avec Christophe Papon pour la liaison satellite. Il boycotte Édouard Philippe. Au Sénat, le Premier ministre a séché les questions au gouvernement. Il boude Richard Ferrand. Le président de l'Assemblée nationale ne participera pas à une conférence à Sciences Po Lille demain avec son homologue du Sénat, Gérard Larcher, car depuis quelques heures, le Sénat a mis la majorité dans tous ces États. Après les auditions dans l'affaire Benalla, le bureau du Sénat a en effet saisi le parquet à propos d'Alexandre Benalla, Vincent Crase et de autres trois hauts cadres de l'Élysée, le secrétaire général Alexis Kohler, le directeur de cabinet Patrice Strauda et le général Lavergne qui dirige la sécurité du président. Les sénateurs estiment que ces cinq individus n'ont pas tout dit, voire qu'ils ont menti lors de leurs auditions, d'où cette colère froide du sénateur En Marche, François Patria.
On ne va pas prendre des mots belliqueux, on va dire que le climat se tend beaucoup, que je ne suis pas sûr que le Sénat en sorte lui-même grandi. C'est de la part du Sénat une volonté manifeste de mettre à mal l'exécutif et au plus haut niveau. Les arrière-pensées sont purement politiques. L'objectif visé, c'est d'abord et avant tout l'exécutif et au plus haut niveau. Et la traduction n'est faite ce matin d'une volonté commune entre les différentes oppositions nationales et locales de pouvoir mener cette démarche.
Après François Patria, à présent, la réponse du sénateur communiste Éric Bocquet. Pour lui, la majorité réagit un peu trop fort.
Ce n'est pas une déclaration de guerre, c'est l'affirmation d'une indépendance et d'une souveraineté. On n'a pas voté ce matin la décapitation de Louis XVI. On a transmis à la justice les dossiers pour aller plus loin dans l'investigation. La justice, dans sa plénitude et son indépendance, a les moyens d'aller plus loin dans les interrogations qui restent aujourd'hui à l'issue de ces travaux de la commission d'enquête, qui a aussi ses limites. Et donc, place maintenant au pouvoir judiciaire et au procureur de la République.
Propos recueillis au Sénat par Élodie Forêt. Le parquet attend maintenant de recevoir officiellement la notification du Sénat et devrait, dans les jours qui viennent, ouvrir une enquête. Jusqu'ici, le parquet n'avait été saisi qu'une seule fois pour faux témoignage devant une commission d'enquête parlementaire. Un médecin qui a été condamné et s'est pourvu en cassation. Et puis, Alexandre Benalla est de nouveau mis en examen, cette fois-ci pour avoir posé pistolet à la main sur un selfie. Bruno Le Maire se fâche pas contre le Sénat, mais contre un dirigeant d'entreprise, Thierry Pilenko, qui va quitter Technip FMC, une entreprise spécialisée dans les hydrocarbures. Le groupe, né d'une fusion entre deux entreprises, était bénéficiaire en 2017, mais il a perdu près de 2 milliards d'euros l'année dernière. Le PDG sur le départ va partir avec 14 millions d'indemnités diverses. C'est inacceptable, c'est intolérable, estime le ministre de l'économie. L'entreprise répond que tout cela est légal et fidèle à la charte du patronat. France Inter, 18h08, Donald Trump veut-il remodeler le Proche-Orient? Après avoir transféré l'ambassade américaine à Jérusalem, le président américain se dit cet après-midi favorable à la reconnaissance de la souveraineté israélienne sur le plateau du Golan, plateau conquis sur la Syrie en 1967. Un ferry fait naufrage sur le fleuve Tigre en Irak, près de Mossoul. Au moins 71 personnes sont mortes selon les autorités, pour la plupart des familles qui allaient à Mossoul pour Nowruz, le nouvel an perse. Au Mozambique, le dernier bilan du cyclone Idai fait état de 242 morts et de 15 000 personnes en grande difficulté qui ont besoin d'aide humanitaire. Beira, la deuxième ville de ce pays du sud-est de l'Afrique en face de Madagascar, est détruite à 90%. Des inondations ont ravagé les alentours. Notre correspondant sur place, Adrien Barbier, a rencontré un pilote d'hélicoptère qui a survolé les zones concernées.
À droite, l'océan Indien. À gauche, un nouvel océan qui est apparu ces derniers jours au Mozambique. Depuis l'hélicoptère de Joël Barrechi, la vue est effroyable et époustouflante en même temps. Dimanche dernier, ce pilote suisse effectuait un vol de reconnaissance lorsqu'il s'est aperçu qu'une zone de plusieurs dizaines de kilomètres carrés était complètement sous l'eau. Et au milieu, une ville, Boussy.
On a vu des milliers de gens sur les toits, dans les étages, partout où ils pouvaient échapper à l'eau. Et je crois que ceux qui ne vivaient pas dans le centre-ville ont eu très peu de chances d'y échapper.
Cette découverte a pris de court les humanitaires. Il a fallu improviser et concentrer tous les moyens sur le sauvetage des sinistrés.
On a commencé par leur envoyer des biscuits énergétiques pour leur permettre de tenir jusqu'à ce qu'un bateau ou un hélicoptère plus gros puisse les secourir.
Le ministre mozambicain de l'Environnement, Celso Correia, a annoncé ce matin que 3000 familles sur environ 12 000 ont été évacués pour l'instant. Une bonne nouvelle, le niveau de l'eau tend à baisser depuis hier, ce qui facilite grandement le travail des secouristes. À Beira, Adrien Barbier, France Inter.
Il avait succédé à Dilma Rousseff, destitué pour avoir maquillé des comptes publics. L'ancien président brésilien Michel Temer a été arrêté. Aujourd'hui, à Sao Paulo, il est soupçonné de corruption. Quelle mobilisation demain en Algérie, alors que ces dernières heures, les partis de la coalition au pouvoir ont pris leur distance avec Abdelaziz Bouteflika. Comme d'habitude, les anti-Boutef rivalisent de jeux de mots, de slogans, de moqueries sur les réseaux sociaux. Des caricatures sont largement diffusées, notamment par Ali Dilem, comme l'on dit traditionnellement, sans doute le dessinateur le plus connu du pays. Dilem a créé spécialement un fil Twitter. Notre envoyé spécial à Alger, Waïba Filali, l'a rencontré.
Le caricaturiste nous accueille dans son appartement à Alger, c'est son bureau. C'est là qu'il passe sa journée à croquer l'un de ses sujets préférés.
Je fais les yeux du mec. Il a les yeux clairs, en fait, Bouteflika. Il a hérité des yeux de sa mère qui a beaucoup compté dans sa vie.
Depuis le début des manifestations, dans quasiment toutes les pièces de son domicile, il laisse maintenant un ordinateur ou une feuille au cas où l'inspiration lui viendrait.
Le problème, c'est le trop-plein. Il faut vraiment le vivre pour le croire. C'est des gamins et des gamines dans les rues d'Alger qui était, d'un point de vue esthétique, d'une beauté sublime. Que j'ai croqué des massacres en Algérie. C'est-à-dire, j'ai fait des dessins sur des massacres où il y a eu 400 morts. Mais essayer de rendre justice à travers un dessin à une jeunesse aussi belle, en même temps aussi triste, c'était quand même assez lourd.
Casquette Harley Davidson sur la tête, il nous montre quelques dessins, comme celui où il remercie tout simplement les manifestants. Merci de nous rendre fiers d'être Algériens, que ce mouvement ne soit pas récupéré.
C'est leur histoire, c'est leur révolte, c'est leur colère. Et quand je vois aujourd'hui, par exemple, que l'opposition est en train d'un peu négocier l'après-Bouteflika, c'est que ce n'est pas le scénario qui se dessine pour l'Algérie demain.
Le pays mérite un autre avenir, selon lui, quoi qu'il arrive. Et il promet de continuer à coup de crayon de se moquer du président.
Dilem, le caricaturiste star de l'Algérie. Une sélection de ses dessins sont à découvrir ou à redécouvrir sur franceinter.fr. Il est 18h12, retour à l'actualité française et le Conseil constitutionnel qui vient de valider les examens osseux réalisés pour déterminer l'âge des jeunes migrants. Cependant, le Conseil constitutionnel reconnaît que ces examens médicaux peuvent comporter une marge d'erreur significative. 5 gilets jaunes de Dordogne interpellés mardi ont reconnu plusieurs incendies volontaires à Bergerac. À Noël, ils ont de 27 à 50 ans. Ils ont mis le feu à un local technique de la communauté d'agglomération, à la maison des services publics ou encore à un pylône de GSM. C'est une illustration concrète des questions de pouvoir d'achat et aussi de modèle énergétique. Les impayés de factures de gaz ou d'électricité ont augmenté de 4,2% l'année dernière, alors qu'avant, les impayés reculaient. Hors trêve hivernale, les fournisseurs ont lancé près de 600 000 coupures ou limitations. La faute au prix de l'énergie, explique le médiateur national de l'énergie Jean Gobert, qui rendait son rapport annuel ce matin.
À partir du moment où les prix de base montent, parce qu'en fait aujourd'hui les prix de l'électricité montent sur le marché. Ce qu'il faut, c'est qu'on ait des systèmes d'aide encore plus efficaces. Ils existent dans un certain nombre de cas, ils ne sont pas toujours mobilisés, les gens ne savent pas le faire, donc que le consommateur soit au courant. Et puis au fond, la vraie question, c'est quand même toute la question de l'amélioration de la qualité des logements dans lesquels se trouvent ces familles, parce qu'ils ont la double peine. Ils ont peu de moyens et ils ont les logements les plus énergivores. C'est ça la vraie réponse. Bon, complètement dégradé, il y en a au moins 5 millions et les logements qui méritent de gros travaux, il y en a encore une dizaine de millions de plus. C'est une situation tout à fait intenable. Je pense que là, les pouvoirs publics devront s'en emparer. Il faut qu'on accélère sur la rénovation énergétique, en particulier des logements qui sont les logements des gens les plus en précarité.
Le médiateur national de l'énergie avec Laurent Kramer. Allez, quelques secondes de douceur dans ce monde de brut avec la journée mondiale de la poésie et ses poèmes, ses récitations, comme l'on dit à l'école. Kimberley, Magdalena, Maëlys et Philothée ont 10 ans et elles ont bien appris leur leçon.
Chahut sur le chemin de l'école, les crayons de couleur sortent du cartable pour dessiner des fleurs. Les lettres font la fête, debout sur les cahiers, elles chantent à tue-tête l'alphabet des écoliers.
Un sapin vert dans la forêt, abattu par des gens, bien décoré avec des boules. Le lendemain, la neige tombait.
C'est un petit mot tout propre et tout beau qui ne veut ni école ni sexe sur le dos. Il préfère les facs d'eau et les feuilles qui volent. Il préfère les étoiles et les bateaux à voile.
Les enfants du sapin.
La cigale et la fourmi. La cigale ayant chanté tout l'été se trouva fort dépourvue quand la brise fut venue. Elle alla... Mince.
Des poétesses en herbe rencontrées dans les rues de Paris par Mathilde Dehimy. La météo.
La météo, avec Préfonds, la retraite et la prévoyance de la fonction publique. Les jeunes fonctionnaires font le bon calcul sur préfonds-retraite.fr.
Jean-Pierre Hameau, c'est une fin de journée printanière, mais pas partout.
Effectivement, Frédéric, la couverture nuageuse résiste en cette fin de journée de la Bretagne à la Normandie et jusque vers le Nord-Pas-de-Calais. Et puis partout ailleurs, vous avez profité d'un après-midi printanier. Demain, nous allons retrouver les mêmes conditions, très nuageux le long des côtes de la Manche et un bon ensoleillement partout ailleurs. Et puis côté température, les minimales au lever du jour seront fraîches. Prévoyez quand même de faibles gelées blanches dans le Nord-Est. En revanche, les maximales seront très douces et comprises entre 15 et 23 degrés du Nord au Sud.
C'était les prévisions météo de Jean-Pierre Hameau. Dans quelques instants, on va aux Pays-Bas.